Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Fidèle auditeur, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix, qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Les quatre interfédérales de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi exigent le respect et la mise en vigueur de toutes les structures anticorruption et anti-valeurs morales. Le porte-parole de l'interfédérale du parti à Kinshasa, maître Didier Kondo, l'a affirmé, c'était le dimanche 12 janvier dernier, lors du lancement officiel de la campagne de vulgarisation en quatre langues nationale des actions et réalisations phares du chef de l'État à travers le pays. Et selon vous, que faut-il faire pour rendre ces mesures de lutte contre la corruption plus efficaces? 081-890-49-69. Si vous avez besoin d'intervenir en direct, appelez-nous 081-890-49-69. Vous pouvez également déposer votre commentaire et nous laisser votre numéro de téléphone sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Mimi Kindou assure la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay, Pierrot et la Meji. Je vous les présente, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Parmi les mesures annoncées par le président de la République dans le cadre de la moralisation de la vie publique et politique en RDC, il y a cette question de, bien sûr, de la lutte contre la corruption. Il y a la création d'une agence de lutte contre la corruption ainsi que la mise en place d'un service pour le changement de mentalité. Alors, les mesures ont été prises, les structures annoncées. Quelles sont, qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace pour rendre la lutte contre la corruption effective? Vous pouvez nous déposer aussi votre commentaire et votre numéro de téléphone sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Et merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Laurent, bonjour.
Bonjour, M. Perrault.
On vous écoute.
Bon, ok. En tout cas, vous savez, si aujourd'hui le pays est en difficulté dans les différents domaines qui marquent le sous-développement et la pauvreté, c'est dû effectivement à la corruption. Si nous avions auparavant, le pays a connu auparavant la colonisation, je vous assure que ce que les colons pouvaient prendre aujourd'hui, les autorités congolaises qui ont géré le pays prennent 10 fois plus. C'est-à-dire il faut encore une nouvelle colonisation. Ça, c'est une nouvelle colonisation de la RDC par les autorités elles-mêmes qui pillent les ressources de la République à leur propre profit, d'acheter des immeubles à l'étranger et construire des flats hôtels dans les pays au mépris des droits de la population. Alors, si il faudrait à ce que nous puissions dire qu'il y a changement de mentalité. Effectivement, le chef de l'État a bien fait de mettre la structure des changements de mentalité qui ne peut que constituer une prévention. Maintenant, il faudrait à ce qu'il y ait maintenant la structure réelle de lutte contre la corruption pour endiguer tout ce qu'il y a comme fuite de fonds publics, parce que je vous assure, nous, on en a marre. Je puis vous dire que moi, je souhaiterais même à ce que là où on peut commencer premièrement, c'est à la DGI et au niveau de la RVA qui prend les passes depuis 2009 à ces jours, qui sont des milliards, qu'on nous dise là où ils ont investi les milliards là. Parce que c'est l'argent qui par exemple, par les ondes, on disait que ça partait directement en Afrique du Sud. Est-ce que c'est l'Afrique du Sud qui fait payer aux Congolais ou bien c'est nous-mêmes qui faisait les Congolais où les gens payent au Congo. Donc, vous comprenez ce genre de choses. Moi, je souhaiterais qu'il y ait l'audit réel depuis 2009 à ce jour pour qu'on sache les milliards qui sont entrés dans les aéroports de GoPass. On les a investis ou parce que nos aéroports n'ont jamais évolué dans des conditions de normes internationales qu'on retrouve dans d'autres aéroports où il n'y a même pas de GoPass, mais les conditions sont mieux que là où nous payons les GoPass.
Alors là, Laurent, vous avez dit qu'il faut mettre en place cette agence de lutte contre la corruption, mais rappelons quand même que nous avons l'observatoire, hein, une structure qui s'occupe de l'observation de l'éthique professionnelle, ça c'est par rapport aux fonctionnaires. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'inspection des finances, là c'est par rapport à l'ARVEA, aux régies financières, comme vous l'avez dit. Est-ce que le problème c'est de créer de nouvelles structures ou c'est de doter des structures qui existent de moyens et d'un nouvel état d'esprit qui peut leur permettre plutôt de pouvoir travailler comme il faut dans cette question de lutte contre la corruption?
Non, parce que les autres structures là, en toute réalité, ils n'ont pas travaillé, même s'ils avaient aussi des moyens, mais sauf qu'ils étaient inféodés aux politiques. Alors, lorsqu'ils sont inféodés aux politiques, il n'y a pas de résultat à attendre de ce genre de structure. Mais quand nous disons aujourd'hui qu'il y a la mise en place d'une structure de lutte contre la corruption, ça ne peut pas prendre des politiciens et les mettre dedans. Il faut voir la société civile qui lutte, des organisations qui luttent contre la corruption et les doter effectivement des moyens et les renforcer et organiser même des formations pour les savoir comment contrôler et dire aussi même au chef de l'État que laisser la structure libre de présenter tous ceux qui sont des détourneurs. Il ne faut pas dire que non, celui-là, laissez-le, etc., etc. Non. C'est-à-dire que cette structure soit indépendante, permettant de sortir au vide et aussi de tout le monde ceux qui sont les détourneurs et les présenter devant la justice. Et en ce moment-là, que le procureur ou les organes judiciaires ne puissent pas faire défaillance et condamner la personne s'il y a des preuves réelles de détournement, on les condamne. C'est comme ça qu'on peut donner à titre d'exemple Moïse Kabila. Quand lui savait que même son proche collaborateur a commis un abus qui est connu, il ne tardait pas à le coffrer. Et c'est comme ça que les gens avaient peur. Vous aviez vu à quelques moments, la situation même au niveau social semblait marcher parce que tout le monde avait peur de détourner les biens de l'État. Mais aujourd'hui là, c'est celui qui détourne qui a encore la promotion. Quand quelqu'un détourne, on les sort de telle entreprise pour l'envoyer dans une autre entreprise. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a détourné par exemple 2 millions, vous limitez seulement à les révoquer et c'est fini. Vous ne lui demandez même pas de restituer les 2 millions qu'il a détournés. Donc vous comprenez, la corruption est allée à un degré là vraiment qu'on ne sait plus calculer, que j'ai qualifié ça de une nouvelle colonisation par les autorités et même de leur propre pays.
Donc, merci beaucoup, Laurent. Je retiens trois choses. Vous avez dit les structures de lutte contre la corruption, même des contrôles, sont déjà inféodées aux politiques. Ça sera très difficile pour eux de pouvoir travailler dans la lutte contre la corruption. Il faut arriver à avoir des personnes qui ont l'indépendance d'esprit, mais ces personnes doivent être encouragées ou accompagnées par la justice qui doit travailler aussi en toute indépendance pour arriver vraiment à bout de cette question de la corruption. Merci beaucoup, Laurent. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Vraiment, merci pour la pertinence de ce sujet, hein, parce qu'il fait vraiment, il pèse bien dans la balance, d'autant plus que la couche société congolaise est presque entamée et on ne sait pas à quel sein on peut se vouer. Alors, monsieur Pierrot, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord dire que la mise sur le pied de ces structures, hein, ne fera du mal, soit à personne, dans la mesure où elle vient en même temps, n'est-ce pas, restreindre, si pas, enfreindre, n'est-ce pas, l'élan ou l'envol qu'a déjà pris, n'est-ce pas, la corruption ici dans notre pays, qui a pris vraiment tout à fait une échelle vraiment inquiétante, vraiment qui ne semble pas vraiment recadrer les choses, et on ne sait pas à qui on peut s'adresser. Mais là où le bât blesse, c'est que dans notre pays, nous avons toujours assisté à plusieurs structures et à chaque moment qui passe, mais nous sommes déçus par l'accompagnement de ces structures. Alors, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque les gens ou les partisans d'un parti quelconque initient quelque chose, il revient au chef de l'État, n'est-ce pas, de prendre à bras le corps cette situation, parce que, vous savez, la lutte contre la corruption dans notre pays doit être un cheval de bataille. D'ailleurs, le chef de l'État, lors de son investiture, a eu à le dire et il a dit qu'il ferait de ça son cheval de bataille. Mais je suis en train de voir que la crème politique, au jour d'aujourd'hui, vraiment, il faut que l'on se dise les choses en face, est presque vraiment tachée de beaucoup de situations. Il revient maintenant là, d'assainir cet espace, tout en mettant des structures capables de résister, de faire face à toutes les corruptions dans n'importe quel angle qu'elle peut être. Parce que vous êtes censé, Monsieur Pierrot, que toutes les couches sociales, toutes les entreprises, pour bien dire, donc tous les milieux où œuvrent les gens, c'est presque entaché. Il suffit d'aller d'abord dans les institutions universitaires, d'aller dans les entreprises qui renflouent, n'est-ce pas, la caisse de l'État. Vous allez voir que toutes ces structures, on assiste à une sorte d'évasion fiscale. On ne sait pas maîtriser des choses. Alors, il revient maintenant qu'on puisse mettre sur pied des structures capables d'enfreindre tout vent contraire, parce qu'il y a eu, on a eu autrefois, on a placé quelqu'un qui pouvait assurer la lutte contre la corruption, mais on se rend compte qu'on retombe dans les mêmes histoires. Alors, là, je me dis que notre justice est interpellée à ce sujet, parce que nous sommes en train de voir que la justice de notre pays ne fait pas correctement son travail. Et moi, j'en appelle, il faut qu'on essaie d'abord de mettre sur pied un atelier où on doit recouper toutes les couches pour voir maintenant s'élancer pour lutter contre cette corruption qui, du reste, gangrène toute la couche congolaise. Et voilà, il y a de l'argent qui échappe au trésor de l'État, et l'État est en train de rechercher comment booster son budget, et voilà, il y a un manquement quelque part, il y a un manque à gagner, tout simplement parce que la corruption est en train de prendre une étape considérable. Alors, on est en train de voir, nous devons quand même changer la manière de gouverner, la manière de diriger notre pays. Lorsque quelqu'un est frappé, ou il est trouvé dans les sales draps, carrément, il doit être mis de côté. Lorsque le casier du judiciaire d'un dirigeant est presque entamé, ça ne sert à rien de l'aveugler. Il faut le mettre de côté et placer quelqu'un à la place qu'il faut. Parce Merci. Que notre pays a besoin d'aller de l'avant. On ne Merci. Va pas reculer jusqu'à quand...
Merci beaucoup, Jérémy. Je retiens l'élément moteur pour vous, c'est la justice. On peut mettre en place des structures, mais dès lors que la justice n'accompagne pas sérieusement la lutte contre la corruption, ça sera très très difficile. Il faut que la justice se réveille, c'est elle-même la base, les socles, et c'est à partir de la justice qu'on peut arriver à moraliser l'espace politique congolais, et surtout dans cette matière de lutte contre la corruption. Merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Félicien, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, je vous félicite pour le thème que vous avez choisi aujourd'hui, parce que nous avons l'impression que les choses ne semblent pas vraiment changer, alors que nous sommes... Et dans un régime où il y a le parti le plus populaire, le plus ancien, l'UDPS, qui a été très critique à l'égard de tous ceux qui ont dirigé ce pays avant. Et aujourd'hui, nous ne semblons pas sentir la différence. Nous ne sentons pas vraiment qu'il y a un changement. Et on dirait que nous sommes en train de continuer sur la même voie. Et la lutte contre la corruption et les antivaleurs ne demande pas de gros moyens. Et si on ne peut pas réussir dans d'autres domaines, mais au moins de ce côté-là, on peut faire quelque chose, comme certains l'ont dit. On a vu Mouzet arriver ici et changer les choses de ce côté-là aussi radicalement, aussi facilement, en donnant l'exemple par lui-même, et ses proches ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Et le président de la République est en train de de dire que la lutte contre la corruption des antivaleurs, c'est son cheval de bataille, mais nous ne sentons pas dans les actes, dans l'action. Donc, nous pensons que c'est par l'exemple qu'on devra nous montrer qu'effectivement, la lutte contre la corruption et les antivaleurs est un cheval de bataille des mandats du président de la République actuelle. Parce que c'est le socle même de la destruction de ce pays. Et c'est à cause de la corruption que ce pays est à genoux. C'est à cause des antivaleurs que le pays est à genoux. On ne pouvait pas s'attendre qu'avec ces régimes, dès la première année, on puisse entendre des gens, ces gens plutôt, des comportements dans l'entourage et même du président de la République et au sommet de l'État, les antivaleurs, l'immoralité des hommes qui devraient prêcher par l'exemple. On ne pouvait pas entendre des cas de corruption comme on est en train d'entendre, et on ne pouvait pas voir l'intimité comme on est en train de le voir, et ça devait quand même donner des signaux très, très clairs qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'opposition qui est radicale qui est au pouvoir, et l'opposition qui a combattu ce genre de choses par le passé qui est au pouvoir, mais on ne sent pas. Et je crois que les fédéraux de l'IDPS qui ont initié cette action, nous devons les soutenir et les féliciter. Et nous ne devons pas être trop fanatiques, nous devons être très sévères vis-à-vis des dirigeants de l'IDPS que nous avons placés là-bas, parce que c'est eux qui vont décider de l'avenir de ce pays, c'est eux qui vont décider de l'avenir de l'IDPS. Si nous sommes complaisants, si nous sommes fanatiques, donc ils vont détruire et le pays et l'IDPS, on en parlera plus demain. Donc nous devons les surveiller.
Merci beaucoup.
Il y a vraiment beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Vraiment, les choses vont très mal parce qu'il y a des clientélismes, il y a le militantisme, on a embauché les gens en fonction de ça. On ne tient pas compte des critères de moralité, des critères des antivaleurs, des critères de valeurs ou de vertus, et on emploie les gens comme ça, et ils font des dégâts dès la première année, et ça inquiète un peu le grand nombre de notre population.
Merci beaucoup.
Ce qui n'est pas bon.
Merci beaucoup, Félicien. Vous l'avez dit, hein, on aurait aimé voir les signaux forts déjà, parce que là, rappelons quand même que le pays est dirigé par le président de l'UDPS, le plus grand parti, qui a dénoncé, qui a combattu les antivaleurs, qui a combattu la corruption. Mais vous l'avez dit, depuis une année bientôt, il n'y a pas de signaux forts qui montrent qu'on s'engage vraiment dans la lutte contre la corruption, parce qu'il arrive aussi qu'il y ait des cas de corruption, d'immoralité, d'impunité qui continue. Et pour vous, la population devrait, vous l'avez dit, soutenir les actions des interfédérales de l'UDPS, de pouvoir surveiller et beaucoup plus et travailler, parce que si on ne réussit pas dans cette question de lutte contre la corruption, ça sera la disparition non seulement du parti, mais de tous les animateurs du parti, parce que toute la population a placé la confiance en eux, et vous avez appelé chacun à pouvoir surveiller ceux qui dirigent pour que la lutte contre la corruption, on puisse passer à des actions concrètes. Merci beaucoup. Olivier, vous êtes à Badolité. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
D'accord. Je pense que le sujet est tellement intéressant qu'il faut vraiment prendre ce sujet de façon à retenir dans un sens très utile. Puisque le sujet sur la corruption, il faut vraiment le prendre au sérieux. Puisque un pays qui est condamné dans la corruption, c'est un pays qui est gangrené dans la corruption, c'est un pays qui est condamné à ne pas avancer, à ne pas prospérer. Si nous voulons rappeler, ici dans notre pays, ce n'est pas le problème de la création de structures qui sont censées de lutter contre la corruption. Mais c'est plus une question de la volonté des animateurs qui sont censés de lutter contre la corruption, en commençant par la présidence et en descendant par les animateurs qui sont censés d'animer tous ces petits. Si nous voulons rappeler à l'époque de Joseph Kabila, Il y avait aussi une structure qui était montée pour lutter contre la corruption qui était dirigée par le professeur Luzolo Bambi. Mais si nous avons attendu des déclarations très fortes qui a été détaillées par le professeur Luzolo Bambi, à plus de 15 milliards de budget de l'État qui a été volatilisé à chaque année dans les poches des individus, mais en réalité, nous n'avons même pas attendu des factions, nous n'avons même pas attendu des poursuites. Aujourd'hui, dans l'époque de Félix Tshisekedi, Tshisekedi fait son cheval de bataille, la lutte contre la corruption, mais nous ne sentons pas l'efficacité de la décision pour attester réellement que le président Tshisekedi fait la lutte contre la corruption comme son cheval de bataille. C'est un problème. Le vrai problème ici, c'est un problème aussi de l'efficacité de l'appareil judiciaire. Si nous prenons l'exemple de Cassipique, où sont la réalité des 15 milliards de dollars, où sont la réalité, nous en sommes où maintenant, où sont la réalité avec les 200 milliards, où sont la réalité maintenant. Et je ne sais pas aujourd'hui, même les DPS commencent à parler de la rétrocommission comme si c'était un mot où nous devons le légaliser. Or, la rétrocommission, c'est une infraction. Il faut le poursuivre, il faut le sanctionner, il faut le condamner. Mais les auteurs de tous ces détournements de 15 millions, de 200 millions, mais on ne sent pas dans le chef de président Tshisekedi la décision, la volonté de la poursuite. Si nous voulons rappeler en Chine vers les années 60, la Chine était gangrenée par la corruption de telle sorte que la corruption était tellement généralisée. Mais ce qui a fait à ce que la corruption puisse diminuer sensiblement vers les années 60 en Chine, c'est que le président chinois à cette époque, il avait nommé une structure de lutte contre la corruption et les animateurs de cette structure rendaient compte uniquement la présence, ni au premier ministre, ni au gouverneur, ainsi de suite. Alors, ces gens étaient aussi tellement mieux rémunérés. Et c'est à cette époque, la suite logique était que la corruption avait sensiblement diminué en Chine. Mais ici, ces animateurs qui sont chargés de lutter contre la corruption, ils n'avaient pas d'accord, et le directeur de cabinet et le ministre, ainsi de suite. Alors, nous ne sentons pas l'efficacité. Ce que nous voulons, c'est que nous interpellons la conscience du chef de l'État, c'est qu'il doit peser de son poids pour lutter effectivement en poursuivant ces auteurs de la corruption. Nous voulons voir surtout l'efficacité des actions judiciaires. Nous voulons aussi que le président de la République puisse s'assurer à ce que les structures qui est chargée de lutte contre la corruption soient tellement indépendantes qu'ils ne puissent pas dépendre de la politique. Si réellement ces structures est tellement indépendante, de même que la justice, le vrai problème aussi, c'est que c'est aussi de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir judiciaire exécutif. Tant que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas garantie, il y a toujours un problème. Nous devons faire le nécessaire de garantir cette indépendance et que la justice ne puisse pas dépendre de la politique.
Merci beaucoup, Olivier. Vous l'avez dit d'ailleurs. Ce que vous demandez d'abord, c'est de la rigueur auprès du chef de l'État dans son engagement dans le domaine de la lutte contre la corruption. Vous aurez aimé voir la rigueur au niveau de la présidence de la République. Vous avez posé des questions de savoir où en sommes-nous avec l'affaire 15 millions de dollars. Ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. C'était entre les mains de la justice. On ne sait pas aujourd'hui la justice est à quel niveau, qu'est-ce qu'elle peut nous dire. Affaire 200 millions de dollars qui touchait à la société Gécamines, on en a parlé. On parle encore de la justice. Faudrait-il savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la justice? Et pour vous, Olivier, s'il n'y a pas cet engagement avec rigueur au niveau de la présidence, cela veut dire le chef de l'État, s'il ne manifeste pas de la rigueur dans la lutte contre la corruption, ça sera très difficile. Mais un autre élément pour vous aussi, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des politiques et des pressions du gouvernement, par exemple, parce qu'on ne peut pas lutter contre la corruption si le pouvoir judiciaire ne s'exprime pas dans toute son indépendance et dans toute sa liberté. Merci beaucoup. 081 890 0 81 890 49 69, c'est le numéro d'appel. Si vous avez besoin d'intervenir dans ce magazine consacré bien sûr à la lutte contre la corruption, mais vous pouvez également débattre avec d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154
ou alors par mail à femmesleaders@gmail.com.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Justin, vous êtes à Fungourmé. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Pierrot et la Mégie Wakabedi, de m'avoir accordé la parole. Je suis très ému au sujet très pertinent que vous avez abordé aujourd'hui. En tout cas, pour alourdir un peu la profondeur et la douleur du sujet, et je veux dire que la souffrance du peuple congolais repose sur la corruption. Parce que c'est la corruption qui est en train d'éliminer notre pays à une très grande vitesse. Et si on ne tire pas l'attention, on ne peut pas les freiner. Et je donne l'exemple de les viols de mineurs, de petites filles. On a lancé ça comme le tabou, c'est connu ou même ici chez nous à Fungurume. Quand quelqu'un tombe sur la mineure, il connaît que je vais perdre beaucoup d'argent s'ils ont d'argent. S'ils n'ont pas l'argent, ils vont moisir en prison. Et c'est tout le monde qui respecte les uniformes, ou soit les petites filles qui circulent dans le riz. Et si on ne met pas la corruption comme une cheval de bataille, donc on sera toujours baigné et on va nous rouler toujours dans des poudres. Que celui qui est censé de faire la corruption, ce sont les tenants du pouvoir. Ce sont les premiers à être corrompus et les suivants, ce sont des petites corruptions qui n'affectent pas notre pays. Prenons l'exemple des élections. Donc on a commencé la corruption à haut niveau. Je parle d'abord du niveau provincial. Les gouverneurs ont donné l'argent aux députés pour voter les gouverneurs. C'est l'affaire connue de tout le monde. On l'a donné 50 000 $ par député pour avoir le voix. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Et même les députés pour se faire élire, les gens, les manières là qui ont financé, qu'au retour, quand tu vas gagner les élections, tu viendras faire ceci et cela. Et la population, il y a même des gens qui n'étaient pas votés, connus officiellement par tout le monde, mais qui ont gagné les élections. On ne sait pas chez quel diable il faut plaider pour qu'on remanie les histoires. Et ce sont les mêmes qui sont en train de nous dire que nous allons lutter contre la corruption. Je demande au numéro un du pays, c'est lui le garant de la nation et c'est lui qui doit gérer toutes les institutions de la République, de mettre la rigueur comme on a mis la rigueur sur les viols des mineurs et vous verrez que ça prendra fin. Et comme on a des intouchables, auparavant on les appelait les intouchables, actuellement ce sont les gens avec l'immunité. On ne peut pas l'arrêter de n'importe comment, il peut tout faire, il peut passer sur la barrière sans pouvoir l'arrêter. Ce sont ces gens-là qu'il faut suivre à la loupe. Ce sont les favorisateurs de la corruption. C'est très facile. Je crois, Monsieur Pierrot, avant de chuter, je vous donne les traitements thérapeutiques pour soigner la corruption, c'est l'impunité. On élimine seulement les intouchables, on élimine les gens à qui on ne peut pas tendre la main, vous verrez que la corruption Merci. Va prendre fin. On craint Dieu aux cieux, par terre on craint l'État. Comme les croyants sont en train de fuir les péchés, et on se plaint de ne pas tout, de faire n'importe quoi. Et les gens aussi fouillent l'État. S'il y a la rigueur de l'État, en tout cas, c'est le traitement thérapeutique pour la corruption.
Merci, la corruption. Merci beaucoup, Justin. Vous avez beaucoup insisté sur la rigueur de la loi. Vous l'avez dit, comme on a renforcé en ce qui concerne les viols sur mineurs, hein, les gens ont peur parce qu'on sait que je serai condamné. Il faut que ce soit la même chose avec la corruption. À partir, vous avez souhaité que le chef de l'État donne cette impulsion de rigueur dans la lutte contre la corruption. Et pour cela, il faut de la volonté politique. Et les gens doivent avoir peur de la justice. Les gens doivent savoir que si je tombe dans cette infraction de la corruption, je serai condamné. Et si on arrive à ça, on pourra vraiment lutter efficacement contre la corruption selon la volonté du chef de l'État. Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot Lamège, bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Omar.
Merci beaucoup Pierrot du verbe que vous m'abudiez en ces jours historiques. Je pense que la proposition des interfédéraux de l'IDPS qui consiste à mettre en œuvre les idées du chef de l'État sur la lutte contre la corruption est très bonne cette proposition. Nous sommes un État de droit, quiconque peut opiner sur ce qu'il veut, même s'il n'accepte pas la contradiction. Donc, personne n'est pas obligé ou oublié aujourd'hui que la lutte contre la corruption et, n'est-ce pas, le changement des mentalités, ce sont les deux piliers qui peuvent fonder notre développement. Mais puis, il y a un problème, on va proposer mes solutions pour lutter. On doit éviter de dramatiser pour la RDC. La corruption est un fléau qui ronge partout. En 2007, nous l'avons vu, aujourd'hui même, il en a des problèmes. Nicolas Sarkozy a été accusé de corruption jusqu'à ces jours. Il y a la justice française qui les troque. Donald Trump a été aussi accusé de corruption après son élection avec les affaires de Russes. C'est un problème qui existe partout. On doit éviter de considérer les Congos comme une affaire. Aussi longtemps que l'homme vivra au monde, le mal sera toujours là. Le plus important, c'est d'atténuer ce mal, car même là, on n'a pas la possibilité d'éradiquer le mal. Le seul endroit où il n'y a pas de péché, c'est le ciel. Mais qu'à cela ne tienne, si nous voulons aujourd'hui que ça change, c'est parce qu'au Congo, trop, ça n'est trop. C'est l'extravagance, c'est le paroxysme qui a atteint son niveau le plus élevé, qui dérange la conscience des gens. Dans un pays où on a des gens qui ont détourné 15 millions, qui ne sont pas inquiétés, et qui continuent à savourer les délices du pouvoir. Il y a des 100 millions qui détournent, il y a des élections des gouverneurs qui ont choqué tout le monde, il y a des branchements au niveau des universités. Je pense par rapport à ces faits rébarbatifs et odieux qui ont tronqué notre conscience, il faudra quand même que les gens s'élèvent. Mais avant d'aller vite aux solutions, qu'est-ce qui fait qu'à ces jours nous ayons des problèmes de corruption? Quelqu'un l'a dit, il faut encore insister, c'est l'impunité. On ne punit pas ceux qui corrompent. Aussi longtemps que dans un même pays, on voit des agents de l'administration qui parlent acheter des véhicules, ils ne correspondent pas à leur salaire. On voit des magistrats qui ont de belles voitures qui ne correspondent pas à leur salaire. Les gens vont continuer à les faire. Deuxièmement, il y a un manque d'éducation civique. Vous savez, beaucoup de gens commettent des forfaits, pas parce qu'ils ont la mauvaise foi, parce qu'ils sont mal éduqués. Et troisièmement, je pense, Pierrot, il y a les conditions sociales. C'est vrai, on ne peut pas soulever la pauvreté pour justifier la corruption, mais ça en est une cause et on doit réfléchir là-dessus. Et moi, je pense, pour les solutions, je vais chuter par là. La création d'une agence me paraît une idée bonne, mais ce n'est pas salvatrice, elle n'est pas urgente, elle n'est pas la mieux appropriée pour trouver des solutions. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? En son temps, le président Kabila a créé un service de lutte contre la corruption avec Luzolo Bambi. On a eu des listes qui ont été établies, on a eu des commissions qui ont été faites. Jusqu'à ce jour, aucune personne n'a été inquiétée. Alors, au lieu de créer des agences qui ne font presque rien, renforçons, comme vous l'avez dit, les faits qui existaient déjà. Premièrement, solution efficace, parce qu'au grand mot, il faut des grands remèdes, il faut sanctionner à partir du sommet. Nous l'avons expérimenté à Corée du Nord. Lorsqu'on s'est mis à sanctionner les ministres qui avaient détourné, la société a pris conscience. Le but de la sanction n'est pas de faire souffrir une personne, c'est de l'aider à changer, c'est de faire respecter la loi, mais aussi de dissuader les autres qui voudraient le faire. Si on arrive à sanctionner au sommet, quelqu'un a détourné, on les sanctionne. Je félicite en passant le chef de l'État qui a pu offrir à la justice aide de ses principaux collaborateurs. C'est ce que nous voulons. Mais de telles œuvres doivent être étendues. Et lorsqu'on verra qu'au sommet, il y a des sanctions, ceux qui sont à la base auront peur. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la conscience du pouvoir judiciaire. Il y a ce qu'on appelle en psychologie la conscience transformatrice. Le pouvoir judiciaire a pour mission principale l'application de lois qui existent. Nous sommes un État de droit. Et l'État de droit n'a de sens que si on arrive à respecter. Au lieu de créer des agences, de faire de ceci, il faudra appliquer la loi. Alors aussi longtemps que les juges, qui sont toujours là pour réclamer leur salaire, ne savent pas que le magistrat, c'est d'abord tout, un apostolat, une vocation, on aura toujours des discussions. Le chef de l'État ne va pas quitter son bureau pour venir arrêter les gens au port. Il faut que l'OPJ qui est au niveau des ports, au niveau de la DGM, prenne conscience, qu'il transmette le dossier au parquet, qu'on transmette au cours, à la cour ou au tribunal, qu'ils en fassent. Donc si les pouvoirs judiciaires ne font rien, on fera. Voilà pourquoi j'en appelle à leur conscience. Troisièmement, il faut un travail sérieux d'éducation civique. Je l'ai dit, je répète, très cher Pierrot, ce qui change un pays, ce n'est pas d'abord la richesse matérielle, c'est d'abord l'éducation civique. Alors, en ce il faut au niveau des familles. Moi, je suivais un documentaire américain. Au niveau des familles américaines, déjà les parents apprennent aux enfants que les États-Unis sont un pays fort, il faut travailler chez soi. Au niveau de la famille, un travail est déjà fait. Au niveau des églises, les pasteurs sont des grands leaders d'opinion. Ils sont capables de transformer des idées. Si on peut prêcher aux gens que la corruption est un péché et que lorsqu'on corrompt, on peut aller en affaire, on serait utile. Au lieu d'assister tout le temps à des campagnes où on dit toujours aux gens qu'ils doivent aller en Europe sans leur remettre des visas. Donc, il y a aussi un problème de médias. Je félicite à passer à la radio au Capier d'autres médias qui emboîtent les pas. Au lieu de mettre toujours la musique immorale, il faut aussi sensibiliser. Donc, trois solutions. La sanction au niveau du haut sommet, la conscience du pouvoir judiciaire et un travail sérieux d'éducation civique, même au niveau des partis politiques, serait vraiment être utile pour que nous puissions aujourd'hui pas éradiquer totalement la corruption, parce que c'est difficile, aucune société ne peut le faire, mais quand même amoindrir, atténuer ces effets pour que nous puissions vivre paisiblement et aspirer efficacement à un développement meilleur. Voilà ma petite contribution, très cher Pierrot. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar. La conscience, la sanction, la conscience du pouvoir judiciaire, l'engagement de tous et la médiatisation des actions de lutte contre la corruption. Voilà, d'une manière détaillée, les choses qui peuvent aujourd'hui faire à ce que la pensée exprimée par les chefs de l'État dans la lutte contre la corruption et le changement des mentalités puisse avoir de résultats. Simon, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à toi, Gilles, et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde entier et qui se retrouvent au travers de notre radio mondiale.
On vous écoute, Simon.
Oui, en fait, l'idée est bonne de créer des agences, mais parfois le moment n'est pas celui-là, parce que lutter contre la corruption en République démocratique du Congo, le problème est structurel. C'est un problème structurel. On peut créer des agences et tout ça. Lorsque vous avez une constitution qui crée, qui prédispose les gens à facilement entrer dans la corruption, dans le détournement de conscience, dans l'escroquerie politique, je m'en vais pour exemple. Comment la corruption prend racine sur notre constitution? Vous avez par exemple un député, un candidat député, national ou provincial, qui nous avons reçu tous ces gens dans nos quartiers, dans nos avenues. Ils nous ont dit que voilà moi ce que je suis. Si vous me votez, je deviens député, je vais contrôler le gouvernement pour vous. Je vais voter les lois pour vous. Je vais faire ceci pour vous. Nous avons trouvé cette qualité dans ce genre de personnes qu'il peut bien faire dans le contrôle, qu'il peut bien faire dans le suivi et dans l'élaboration des lois. Mais lorsque la Constitution accepte que cette personne que nous avons voté pour celle qui... Ils sont venus pour nous dire ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Mais quand ils sont arrivés là, la Constitution ne leur interdit pas de ne pas aller ailleurs. Ils arrivent là, on les prend. Déjà, dès le départ, il y a un détournement, une escroquerie mentale ou de politique ou sinon de confiance de la population. On les prend, on les nomme ministre. Et là, on met son suppléant. Son suppléant, c'est que le député national ici, que je vais contrôler, parce qu'il est devenu ministre des Finances, je vais le contrôler. Mais si jamais j'ai trouvé des failles dans sa façon de fonctionner, et que je l'exposais, il sera révoqué en tant que ministre. Par conséquent, il va rentrer à l'Assemblée, et moi, je redeviens chômeur. Donc déjà, l'entretien va bien se passer entre le ministre et son ex-suppléant. Déjà, la Constitution ne nous aide pas. Voilà pourquoi nous, à l'ICCN, l'Initiative du citoyen pour un Congo nouveau, nous tenons d'abord à commencer par modifier certains articles de la Constitution. Quand tu es élu député, tu restes député. Tu es nommé ministre, tu le restes. Chacun dans ses fonctions. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la corruption est devenue un moyen mobile. Alors, j'aimerais bien appuyer l'idée de COCOLICO, Coalition des organisations de lutte contre la corruption. Ils sont venus sensibiliser sur la culture fiscale ici. Déjà ce mois de février, ils veulent former 400 aviseurs. des gens qui n'auront pas de salaire, ce sont des bénévoles, ce sont des aviseurs qui seront dans les ports, dans les services de l'État partout. Il faut que ces gens-là, qui escroquent l'État, sachent que on a mis des gens partout qui peuvent me voir. Les aviseurs, avec les lois de la République, qui disent que lorsque tu es dans une affaire où il y a eu détournement, où il y a eu vol, où il y a eu ceci, quand tu arrives, les dégérats arrivent à prouver ça, si l'argent perçu, l'argent qui a été détourné, on te donne 50% et 50% va dans la caisse de l'État. Ces aviseurs, on va former 400 Matadi, 400 Boma, 400 Mwanda, 400 Bazangu. Nous encourageons ce genre d'action de Cocolico et nous, l'ICCM, nous sommes en train d'approuver ça. Parce que c'est l'unique façon qui va faire faire. Également, sensibiliser sur la nomination, la liste déclarative. Toute cette infraction, le chauffeur qui fait un double stationnement, les montants de factures d'amende sont là. Mobiliser les chauffeurs, ce n'est même pas 3 000. Alors quand qui est attrapé dans de telles infractions, allez à la banque, payez les 3 500 et puis tu passes, on est dans les versets 15 000 que le commandant ou quoi va manger. Donc il faut d'abord commencer à sensibiliser les gens. Les chauffeurs taxis ne le savent pas que quand je fais double stationnement, j'ai une amende de 3 000 fois ou 4 000. Alors, si cette personne le sait, il commet cette infraction. Il va à la banque payer au lieu de payer des choses comme ça. Donc, sur le plan, il faut d'abord structurer des choses et recruter les gens des agences-là. Il ne faille pas que ça soit, il faut être dans un parti politique pour que vous soyez recruté. Il faut vraiment une méritocratie, quelqu'un qui tient compte de la corruption. Sinon, on va à déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Voilà, je dis.
Merci beaucoup, Simon. Vous l'avez dit, là, il faut un cadre structurel de lutte contre la corruption, vous l'avez dit, accompagné d'une forte campagne de sensibilisation, parce que beaucoup de gens ignorent même, ils ne savent même pas ces pratiques, quelles sont les pratiques qui peuvent être considérées comme une corruption pour qu'elles soient punies par la loi. Il faut s'engager dans cette campagne sur terrain, il faut dénoncer. Et c'est l'ensemble de tout ça. Et puis aussi, vous l'avez dit, aller plus loin, revoir certaines dispositions de la Constitution qui portent des faiblesses, qui poussent déjà les gens à pouvoir se comporter ainsi, et surtout en ce qui concerne la période électorale. Merci beaucoup, Pépé. Vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Piero. Bonjour aux auditeurs radio.
On vous écoute.
Moi, je pense que l'idée de nos amis de l'UPS est très, très, très louable, mais je trouve qu'il y a aussi un peu de distraction dans cette histoire, la corruption. Vous voyez, aujourd'hui, une année déjà au pouvoir de notre président, il y a eu des cas de corruption qui est maquillé autrement, les 15 millions de dollars, les dernièrement, ici, il y a une ONG qui a publié un rapport. Les dépassements des budgets sur les programmes d'action des 100 jours. On vous dit d'acheter un cahier, mais vous dites que c'est à 20 dollars, il y a un dépassement. Et cette ONG a prouvé même que cela est vrai, il y a un dépassement des budgets sur les programmes des 100 jours du chef de l'État. Donc les gens devraient être arrêtés par rapport à ça.
Mais alors, Pépé, mais c'est que en principe, Pépé, parce que vous l'avez dit, il faut, quand vous avez le fait, c'est pourquoi dans cette émission, quand nous avons eu le débat, vous vous rappellerez, il y a un député qui avait demandé la fois passée en disant, si quelqu'un a des faits avérés, il faut les transmettre à qui des droits, transmettre à la justice, dire par exemple que non, tel travail effectué telle part, au lieu des 100 000 dollars, il y a eu 200 000, 100 000 ont été détournés par telle personne chargée du projet et transmettre cela à la justice. Il ne reste pas seulement de dire, voilà, il y a des cas avérés de corruption, mais il faut dénoncer ces cas, il faut les porter devant la justice. Ça aussi, c'est un autre problème.
Les ONG, la société civile, les gens découragés dénoncent toujours. Mais la justice ne peut pas aller à la contre de ce que la politique demande. Croyez-vous vraiment qu'avec l'accord FCC cash, aujourd'hui on peut arrêter un ministre? Parce que si on retourne un peu derrière, vous allez constater que les gens, les vrais clowns à cravate, ce sont les gens qui sont dans les institutions. Et puis, ils sont là, ils font n'importe quoi, parce qu'ils sont sous, ils ont des soutiens de leur parti politique. Pourquoi pas que ce n'est pas fragilisé leur parti politique, leur regroupement. Je donne un autre exemple, le chef de l'État, toujours, il a dit lors des élections des gouverneurs et des sénateurs, il a donné même des injonctions à la justice de suivre, parce qu'on a constaté qu'il y a eu des corruptions parties par là, par rapport à ces élections. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Effectivement, cela était réel, mais rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que la justice n'était pas allée à la compte de ce que, donc, par rapport au contexte RDC. Notre justice ne peut pas aller à la conche de ce que demande la politique, sinon on va poser des problèmes.
Il y a des voilà. Et ça veut dire que vous souhaitez vraiment qu'il y ait l'indépendance de la justice, mais n'oublions pas aussi, quand vous posez la question à ceux de la justice, ils vous disent qu'ils fonctionnent avec le principe qu'on appelle la loi de preuve. Cela veut dire, quand il y a des dénonciations, il faudrait aller vraiment apporter des preuves à la justice et qu'il y ait des cas avérés, hein. C'est ça le grand problème dans tout ça. Mais vous dites que ça sera impossible aujourd'hui de lutter contre la corruption dès lors que la justice est encore inféodée au pouvoir politique, disons, au pouvoir exécutif. Et puis, mais aussi aux politiques, ça sera très difficile aujourd'hui d'arriver vraiment à lutter contre la corruption comme il faut. Merci beaucoup, Pépé Pacifique. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Pacifique, bonjour. Voilà, on a perdu Pacifique. Lola, vous êtes à Ouattara. Bonjour, Lola.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Merci beaucoup, Pierrot, de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir. Effectivement, la corruption, étant donné que c'est pratiquement ça qui fait que notre pays se trouve dans cette situation, particulièrement, et la corruption, c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle est même vieille comme... la création de ce monde, dans le sens que je pense que si nous voyons dans tous les domaines de la vie, dans notre État, dans notre pays, il y a cette pratique de corruption. Alors, nous avons heureusement déclaré avec notre constitution que la République démocratique du Congo était un État de droit. Je crois que tout c'est dedans. Et le problème de corruption et même les solutions. Parce que ce que c'est un état de droit, c'est quoi? Quand on parle d'un état de droit, ça présume qu'on a des lois fixes, des lois justes, et qu'on est respectueux de ces lois, et aussi la gestion selon les normes démocratiques. Pourquoi je dis ça? Si et seulement si nous respectons ces principes, parce qu'il y a suffisamment de lois dans notre pays qui parlent autour de la corruption, ce n'est pas pour rien qu'on dit que la justice élève même une nation. Ça, c'est même biblique. Et même, quelque part, on dit même la justice est l'épine dorsale même de la bonne gouvernance. Alors tout ça, c'est un état de droit. Si vraiment, réellement, nous voulons tenir à ce que nous disons que la République de moitié est un état de droit, faisons respecter les principes d'un état de droit. Vous allez voir quoi? Un, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec les créations des agences et tout qu'on sort. Ça, c'est une pratique encore de la corruption, parce que là-dedans, dans ces agences, les gens vont partager le pouvoir et ils vont se retrouver toujours pour aggraver la corruption dans notre pays. Parce que souvent, nous connaissons très mal parfois la corruption qui est plus grave pour un État, et on se contente plus de la corruption des petits citoyens que nous voyons, qui n'affecte pas tellement à profondeur. Mais les grandes, la corruption qui est tellement grave, qui crée beaucoup de problèmes, c'est la corruption au niveau des institutions et des grandes institutions. Il y a un journal, un invité qui avait intervenu sur votre radio un jour, il nous a dit, c'est que touche l'épine dorsale même de notre pays. Ce sont des corruptions au niveau des institutions. Alors, qu'est-ce que je voulais dire en parlant d'un état de droit? La justice, il n'y a que la justice, si la justice dans un état de droit qui est caractérisé par l'indépendance fait bien son travail, Pierrot, je crois que cette justice nous amènera à combattre la corruption de qui que ce soit, que vous soyez des institutions, soit le président de la République, et gouvernement, parlement, surtout les quatre institutions de notre État. Parce que c'est ça qui est en train de nous appauvrir. Alors, si cette justice est bien accordée dans de bonnes conditions de travail, avec un très bon recrutement, pas de clientélisme, on affecte celui qu'on veut selon le partage de pouvoir, soit dans l'histoire des coalitions, mettez tel là-bas, tel là-bas. Mais nous allons voir quel est le résultat.
Je crois qu'on doit laisser l'indépendance du pouvoir judiciaire et ce pouvoir va nous amener à respecter la gouvernance selon les normes démocratiques.
Merci, merci.
Et à ce moment-là, ce qu'on dit, les couloirs à cravate se retrouveront et la sensibilisation aussi puisse suivre.
Merci beaucoup, Lola. Merci, Lola. Je retiens ça, vous avez dit, la lutte contre la corruption, tout ça, c'est englobé dans l'état des droits parce que c'est là où on trouve des lois justes, on respecte ces lois et on gouverne selon les normes démocratiques. C'est ça même le socle, n'est-ce pas, de l'état des droits et tout est à l'intérieur. Avec les rôles de la justice, je crois qu'on peut arriver vraiment à résoudre cette question de la corruption. Merci beaucoup, Lola. On va terminer avec vous, Pacifique. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Également à tous les auditeurs qui nous suivent pendant ce moment, nous transmettons nos condoléances les plus émues à notre ami, collègue, Sonville Mukendi, qui venait de nous quitter. Quand cela ne tienne, Pierrot, pourquoi la création des nouvelles structures, car celles qui existent déjà, nous ne voyons pas l'impact positif. Ce n'est pas possible, Pierrot. Aussi longtemps que la coalition FCC-CACH existerait, la corruption ne sera pas endiguée car l'affaire sera toujours étouffée. La justice est la base de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, notre justice, il y a 19, 18 ans, la justice n'avait que l'aspect monocolore, Pierrot. Hein? Les enquêtes s'ouvrent et finissent sans suite. On ne connaît pas. Nous apprenons tout simplement que tel, on a dirigeanté bon, des enquêtes par-ci, par-là. Mais ça finit comme ça, on ne comprend rien. Rappelez-vous, Pierrot, Tshisekedi wa Mulumba, une fois nommé à la primature par Mobutu à son temps, une seule parole, une seule phrase, celui qui a un bien de l'État doit le remettre. Nous avons vu la cour de la primature qui était inondée par des véhicules. Donc les gens n'ont pas besoin de sensibilisation. Ils savent déjà que ce que je fais ici, c'est un problème. Si je ne fais pas ça, voici ce que la justice prépare pour moi. C'est très clair. Regardez par exemple, Pierrot, rapidement, là, avant que je vous donne mes propositions. La DGRAD. La DGRAD doit être refait. On doit refonder ça. Sinon, on doit supprimer ça. Donc, dans cette boîte-là, il n'y a que la corruption. Pourquoi ? Parce qu'on prend l'argent des CECI, de l'argent du commerce extérieur, de l'argent de DGI, partout là-bas, on met là-bas. Mais de la manière dont les choses se passent, on ne comprend pas. À l'époque des musées, on ne pouvait pas garder l'argent dans les régies financières. Il n'y avait que des bordereaux. Donc, à partir de 7h30, l'argent est déjà dans la banque centrale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça.
Oui, mais le principe aujourd'hui même, c'est que le principe aujourd'hui, c'est que les agents ne doivent pas percevoir l'argent. Les agents ne peuvent circuler qu'avec des bordereaux et l'argent en principe est payé au niveau de banques. C'est ça le principe. On ne peut pas voir quelqu'un qui vient dans le quartier que non, voilà, je suis agent de la DGRAD, DGI, agent de la SNEL ou de la Régie des Eaux. Donnez-moi l'argent de votre facture. En principe, l'argent est payé à la banque. C'est ça la logique. Mais vous l'avez dit, Pacifique, aussi longtemps qu'on aura la coalition FCC cache, ça sera difficile de lutter contre la corruption parce qu'il y aura toujours cette couverture. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas des structures. Les gens doivent craindre la sanction. Ils doivent savoir que si je fais ça, je serai puni. Merci en tout cas, Pacifique. Merci à vous tous. Et nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Mimi Kindou pour la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais ce magazine, vous allez le retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre sympathique attention. Au revoir.